santé actuelle et future des enfants, du bien-être des accueillants et de l'avenir de la planète. Beaucoup de professionnels et de parents, d'ailleurs, y sont sensibilisés, mais ne savent pas comment s'y prendre et par où commencer, tant la tâche est immense. Alors parfois, malgré de bonnes intentions, ils ne parviennent pas à mener des actions vraiment cohérentes. On voit certaines crèches se mettre au bio, mais ne pas faire attention au contenant. Or, le contenant, c'est important. On voit d'autres crèches qui font de la récup pour les activités, mais qui utilisent une colle potentiellement toxique. D'autres qui font du tri sélectif, mais utilisent des produits un peu agressif pour nettoyer la crèche, ou encore qui abusent de la clim et qui veulent faire des économies d'énergie. Donc c'est pas facile, et on va essayer de voir avec nos intervenants comment, ce qui peut être fait et ce qui peut être efficace, parce que, et c'est l'avis de nos quatre intervenants, il y a urgence. Alors, nos intervenants, à ma gauche, Claire Grolot, toxicologue de formation, qui est présidente de Label Vie, ex-écolo-crèche. Donc son association dispense aux crèches le label Écolo-crèche et maintenant aux assistantes maternelles le label Éco-accueil. Claire est une pionnière puisque l'association, si elle existe depuis 5 ans, le projet Écolo-crèche, lui, est né il y a plus de 10 ans. À ses côtés, Frédéric Gilbert, qui est responsable pédagogique et développement durable du réseau Crèche Attitude. Et le réseau Crèche Attitude a engagé ses 190 crèches dans une labellisation donc avec Écolo-crèche. Donc c'est une décision du gestionnaire d'emmener toutes ces crèches vers le label Écolo-crèche. À ma droite, Madame Nadine Rivet, maire adjointe chargée de la petite enfance à Limoges. Limoges, ville santé citoyenne, qui depuis l'année dernière a mené une initiative pour lutter contre les perturbateurs endocriniens dans les lieux d'accueil de la petite enfance. Et à ses côtés, Sylvie Guillou, docteur en chimie, formatrice Sécali, un cabinet spécialisé en prévention santé et notamment en sécurité alimentaire pour les professionnels de la petite enfance. Donc voilà. Il y aura un moment à la fin de la conférence, enfin de la table ronde pour des questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. Avant de commencer, parce qu'en préparant la table ronde, je me suis dit, mais le développement durable, c'est vaste, quoi. Donc je vais faire un petit tour de table, sans table, pour demander à chacun, en deux, trois mots, développement durable et petite enfance, c'est quoi ? Frédéric. Alors, quand même.
Bonjour. Alors, chez Crèche Attitude, et c'est le discours que je tiens à chaque fête de labellisation, pour nous, le développement durable requiert trois axes, l'axe financier, l'axe social et l'axe environnemental. Même si l'axe financier, nos structures n'ont pas toujours conscience qu'elles sont dedans, on y est. L'axe social qui vise bien sûr tous les parents et tout ce qu'on peut leur apporter, et l'axe environnemental avec toutes les activités qui sont proposées pour et avec les enfants.
Bonjour. Alors pour moi, le développement durable, c'est pas une alternative, c'est un modèle de société. Donc j'ai envie de dire, on n'a plus le choix. Effectivement, c'est la recherche d'un équilibre ou en tout cas la prise en compte de trois types d'impact environnemental, social et économique. Et le développement durable et la petite enfance étant une période de vie extrême, de haute fragilité et puis une période éponge pour le petit homme. Ça n'est pas non plus un choix, c'est devenu un devoir en fait pour nous de faire rimer et raisonner la petite enfance et le développement durable. Merci.
Madame Rivet.
Alors nous, notre démarche est intégrée dans la charte ville santé citoyenne, et je dirais que le développement durable, c'est la recherche de la santé dans toutes les actions que nous pouvons mener, mais à tous les échelons.
Bonjour. Que dire pour reprendre les trois axes principaux du développement durable? Effectivement, c'est l'économie, l'écologie et l'humain. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que je dirais, à ce jour, comme tu disais à Catherine, à la fin de semaine, quand on faisait un petit point, c'est l'humain, la place de l'humain dans la structure petite enfance, du tout petit à qui on doit tous les soins, mais prendre aussi soin des adultes qui y travaillent. Donc l'aspect sociétal est très important à mon sens, et j'y travaille au quotidien pour apporter ma pierre à cette réflexion.
Donc Claire, je reviens vers vous. Donc, Écolocrèche, le label, la labellisation, le processus de labellisation, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la démarche, ce que ça implique pour les structures, et voilà, en quoi, comment vous les accompagnez?
Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a mille et une façons de faire de l'éco-responsabilité en crèche. Nous, on a choisi de mettre au point une démarche et un label, une démarche pour accompagner les professionnels qui ne savent pas par où attaquer le sujet. Parce que, comme vous le précisiez en introduction, c'est énorme. C'est un sujet, on commence par ici, mais ça impacte autre chose. Donc on a créé, on l'appelle démarche avant tout, c'est une démarche de progrès continu, c'est-à-dire que n'importe quel établissement, dans n'importe quelle situation initiale, quelle que soit sa taille, sa structure, son modèle, peut rentrer dans la démarche et décider, il suffit d'avoir la volonté de progresser dans ce sens-là. Donc il s'agit d'un état des lieux, on fait un diagnostic qui est riche de 350 questions, qui donne lieu à un impact initial, en fait, une photo à l'instant T, au départ de l'entrée dans la démarche. Et les professionnels de terrain, qui sont la clé de voûte de ce projet, vont décider, évidemment avec le gestionnaire, vont décider d'un plan d'action en fonction de ce qui est faisable pour eux. Parce que c'est bien de décider de plan d'action dans des très hautes sphères si le terrain ne peut pas du tout le mettre en œuvre. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans notre société, c'est un coup d'épée dans l'eau. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que ça bouge et que ça avance. Les professionnels de terrain sont cette clé de voûte. On va les accompagner, on va les former, leur donner les compétences techniques qui leur manquent parfois. On va les réassurer aussi, parce qu'on va valoriser des tas de belles choses qui sont faites dans chaque établissement que nous visitons. On va les aider à communiquer sur ce projet, à le valoriser, à faire face à certaines difficultés. Parfois, on pense progresser, mais d'autres institutions ne voient pas ça du même œil. Donc, on accompagne aussi ce changement de pratique qui est un moment de fragilité pour l'établissement. Et puis, on a créé le label parce qu'on avait envie de récompenser ces professionnels qui défrichent, qui ont le courage de changer notre société, alors même que les autorités n'y arrivent pas. Donc on a eu envie de créer un label, et puis effectivement, c'est à la demande des professionnels qu'on a créé ce label, et ce label est une vraie récompense, une vraie reconnaissance. Donc maintenant, c'est un comité national qui décerne ce label. Nous ne siégeons pas au comité, nous l'animons, et on est très fiers de pouvoir dire que dans ce comité, il y a toutes les grandes institutions du monde de la petite enfance, mais aussi du développement durable. Donc la CNAF y siège. La Direction Générale de la Cohésion Sociale, la Fondation ex-Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, les grandes fédérations du monde de la petite enfance, la CEP, voilà. Et donc c'est ce comité qui se réunit tous les deux mois et qui étudie des dossiers anonymes qui montrent la progression que réalise chaque crèche. Voilà.
Combien dure le temps pour la labellisation ?
Alors le temps minimum, c'est un an, c'est-à-dire un an entre le premier diagnostic et le deuxième diagnostic d'évaluation, et maximum 3 ans, c'est-à-dire qu'une crèche ne peut pas mettre plus de 3 ans pour être labellisée, et le label est renouvelé tous les 3 ans.
Et quand on le renouvelle, il y a un rediagnostic ou juste contrôle ?
Et oui, il y a un rediagnostic et il faut avoir mis en place de nouvelles progressions.
Et un des, entre guillemets, reproches parfois qu'on peut faire, c'est que c'est long, donc lourd, et c'est coûteux. C'est tabou de demander ?
Pas du tout, pas du tout. Alors, long, pas tant que ça, parce que, étant donné les résultats obtenus, parce que maintenant, donc, il y a plus de 330 crèches qui sont engagées dans cette démarche, donc on a sur tous les départements français, donc on a un vrai recul sur l'impact, et on fait des mesures d'impact chaque année. En termes de temps, donc quand on dit c'est long, non, pas tant que ça, parce qu'étant donné les impacts obtenus, pour obtenir des impacts pareils, non. Et c'est coûteux, oui, c'est un coût de départ pour la formation, pour pouvoir participer à toutes les animations que nous réalisons. Et on va dire qu'en moyenne, alors il y a plusieurs façons. Soit on fait une approche territoriale et en fonction du degré d'autonomie qu'on veut avoir, ça a un certain coût, ça coûte 800, 1200 euros les années. Mais en moyenne, ça coûte 1000 euros par an et par crèche. Voilà. Et il faut savoir que quand on a fait, on fait une évaluation des économies qui sont réalisées par les crèches économisent dès la première année, de façon très surprenante, beaucoup d'énergie, d'eau, énormément sur les produits d'entretien. Et une crèche, au moment de la labellisation, l'élu annonçait 3000 euros d'économie rien que sur les produits d'entretien. Donc c'est au final une démarche qui donne des retours sur investissement dont le CAC 40 pourrait pâlir. Donc au final, non, il y a effectivement un investissement de départ, mais ensuite ça n'est pas coûteux. Et on a montré à travers une étude de monétisation de la démarche écolo-crèche ou d'autres types de démarches, hein, qu'un euro investi dans ce genre de démarche faisait économiser 20 euros aux parties prenantes, c'est-à-dire aux gestionnaires, aux familles et à notre société.
Ça veut dire qu'une fois qu'une crèche est labellisée, l'année suivante, vous lui calculez l'impact de cette labellisation ?
C'est ça.
D'accord.
Tous les ans, en fait, on fait ce calcul et on le transmet.
Merci.
Voilà.
Sylvie Guillou, vous n'êtes pas du tout dans un processus de label. Vous intervenez dans les structures par petites touches. En général, on vous sollicite sur quoi ?
Alors, par petites touches, oui, c'est vrai, je suis basée en Bretagne, je travaille surtout avec les structures associatives parentales dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et les petites touches développement durable, là, ce sera amener les établissements, les directions à réfléchir sur la part du bio dans la cuisine, mais aussi la qualité des aliments qu'ils vont utiliser, des aliments simples, transformés ou pas. Et côté cuisine, il y a deux autres pans qui, pour moi, sont importants. C'est le nettoyage de la cuisine. Est-ce que l'on va continuer à utiliser les produits, entre guillemets, comme disait une personne il y a quelque temps, de la mort qui tue, voilà, avec le budget qui est en face, où on revient à des choses beaucoup plus naturelles. Et puis, ce sera aussi revenir à des matériaux plus naturels et plus durables pour constituer la table des enfants. Donc, c'est pas un combat, mais ce sont des réflexions que j'amène à chaque formation, et je vois que les choses bougent, les choses évoluent, et on retrouve de plus en plus maintenant de verres trempés tout simplement sur la table des enfants. Et puis tout ça, ce sont des petites touches et puis des petites victoires pour la santé future des enfants.
Alors, je vais faire le lien avec la santé des enfants et je vous donnerai après la parole. Vous, à Limoges, vous avez choisi d'agir donc seul, je dirais, enfin de partir d'une thématique précise, les perturbateurs endocriniens, d'une crèche précise, et après ça a fait un peu tache d'huile. Vous pouvez nous raconter comment est née votre initiative ?
Alors, comme je le rappelais tout à l'heure, on est dans un cadre général de ville santé citoyenne, donc ça passe par d'autres types d'actions, par exemple l'abattage des arbres bouleaux qui sont allergogènes, la limitation du sel dans les cantines scolaires. L'année dernière, donc il y a 2 ans, c'était le sel, l'année dernière c'était le gras, et cette année on entame le sucre. Donc vous voyez, depuis 3 ans, on a fait beaucoup d'efforts, de telle manière que nous arrivions cette année à des valeurs acceptables et qui aillent dans le sens de l'amélioration de la santé de nos enfants. Et donc à un certain moment, on a pensé, enfin nous étions plusieurs sur le sujet, qu'il fallait mener une action auprès des plus petits et auprès des crèches. Donc la lutte contre les perturbateurs endocriniens est passée dans un premier temps par un audit auprès d'une crèche, et cette crèche, nous en avons 13, et cet établissement a été choisi parce qu'il venait de bénéficier d'un certain nombre de travaux, d'abord des travaux d'agrandissement, et dans le cas de l'agrandissement, des travaux de réhabilitation. Et on avait dans l'idée de voir si, grâce à ces travaux, nous avions pu améliorer l'état de cette crèche. Et quand, en toute hypothèse, on était dans le respect des valeurs absolues qui permettaient de conserver la santé des enfants. Donc cet audit a été mené à partir de fin 2016. Les résultats en ont été donnés au premier trimestre 2017. Et donc, il y avait évidemment des points positifs, des points à améliorer, quelques points négatifs. Mais ça aboutit vraiment à un plan d'action. Donc, on vous a mené, c'est un peu, bon, mais c'est une synthèse. Et donc, dans le cadre du plan d'action qui était préconisé par ce cabinet d'audit, il y avait 5 grands thèmes. Un thème attaché au nettoyage, un thème donc nettoyer autrement, deuxième thème jouer autrement, troisième thème mieux respirer, quatrième thème c'était quoi, mieux dans son assiette, parfaitement, et puis acheter exigeant. Et c'est vrai que sur ces 5 thèmes, il y en a qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. Donc il y a des choses assez simples qui ont été immédiatement mises en place. Bon, par exemple, là, je vois, et ça me gêne beaucoup, tous ces biberons. Nous, on est reparti sur les biberons en verre. Et nous en sommes tout à fait satisfaits. Sur le nettoyage des enfants, sauf quand ils sont très souillés, on les nettoie à l'eau, hein, et sans passer par des produits d'hygiène très compliqués. On diminue largement les produits d'entretien, et notamment les matelas de linge. On est repassé à une serviette sur les matelas. Et alors je ne dirais pas, je pense qu'on n'est pas très éloigné de la labellisation à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, mais je ne dirais pas que c'est systématiquement producteur d'économie, parce que notamment pour le nettoyage, on va équiper cette année 3 de nos crèches de nettoyeurs vapeur, mais c'est un investissement très important. Alors, c'est vrai qu'à terme, on gagne les produits d'entretien, mais dans un premier temps, un nettoyeur, c'est 3 000 €. Donc, ça n'est pas anodin quand on a plusieurs établissements à équiper. Donc, que vous citez d'autres comme exemple, donc
la vaisselle,
nous allons passer à la vaisselle. Vous savez que Limoges est une ville de porcelaine. Enfin, j'espère que ça n'est une nouvelle pour personne. Et donc, nous profitons de cette image-là pour éliminer notre porcelaine en mélamine, comme tout un chacun utilisait, pour faire une action sur de la vaisselle en porcelaine, mais pas que, parce que la porcelaine, comme vous le suggériez tout à l'heure, il y a les enfants, bien sûr, qui sont concernés, leurs parents, et il y a aussi le personnel. Et nous sommes très attentifs aussi au personnel, parce que c'est vrai que quand on améliore la vie des enfants, ça a des incidences, et on essaie d'améliorer aussi la vie de notre personnel, sauf que la porcelaine est lourde. Et donc nous...
Sauf si elle est très fine.
Oui, mais si elle est fine, elle est très fragile.
Donc, voilà. Oui, ça faisait chic quand même, les crèches de Limoges.
Oui, tout à fait.
De porcelaine de Limoges.
Oui, non, mais ça sera de la porcelaine de Limoges. Mais nous, sur un mode éducatif, nous utilisons pour les repas des plateaux. Et l'enfant a un petit plateau avec un compartiment pour l'entrée, un pour le plat, un pour le dessert. Et donc nous avons essayé de reproduire cela en porcelaine, mais un plateau, c'est un petit peu plus lourd qu'une assiette. Et on a quand même conçu un projet que nous avons estimé intéressant parce qu'il a une valeur pédagogique, dans la mesure où nous avons un établissement qui forme au métier de la porcelaine. Donc nous avons travaillé avec cet établissement. Et c'est une étudiante qui a proposé le design. Ensuite, c'est un modeleur qui va faire le projet. Ensuite, ça va être expérimenté, enfin, coulé par une entreprise. Et si tout se passe bien, à la fin de ces différentes étapes, donc d'ici Noël, nous aurons tous nos plateaux en porcelaine, et qui plus est, dans un cadre de mécénat d'entreprise.
Pour les produits, vous m'aviez dit que vous travaillez aussi avec des entreprises locales le plus possible, pour les produits de soins ou d'entretien, je ne sais plus, d'entretien peut-être.
Alors nous essayons effectivement, nous avons la chance d'avoir une entreprise locale qui est spécialisée dans le bio. Mais là, alors on se heurte à un écueil, c'est évidemment le cadre des marchés. Pour également les produits d'entretien, parce que je vous dis, on va avoir 3 crèches avec des nettoyeurs vapeur, mais on en a 10, 100. Donc petit à petit, elles vont toutes être équipées, mais ça c'est progressif. Donc nous sommes en train de renouveler le marché de produits d'entretien, mais pour nous ça va au-delà, parce que vous voyez, ça part de l'établissement d'accueil de jeunes enfants, mais si on renouvelle un marché pour les produits d'entretien, il n'y a pas de raison que ça ne touche pas les EHPAD pour les personnes âgées, et de même que tout le personnel de la commune qui est appelé à manipuler des produits d'entretien. Donc on renouvelle actuellement le marché de produits d'entretien. On a été extrêmement vigilants, on prend des produits éco-certes, mais il y a une petite réticence de certaines personnes, et on doit passer au-delà ces préventions. On a beau expliquer que c'est dans un cadre d'amélioration de la santé, que pour nous c'est important pour les enfants, parce que quand on a agi dès le plus jeune âge, ensuite c'est toute sa vie qu'on est impacté. Mais au-delà de ça, de ce discours, il y a des habitudes qui sont ancrées. Donc pour nous, le personnel de crèche a été formé. On passe maintenant, enfin pour la crèche la Joliot-Curie, donc celle qui a été la crèche expérimentale, les parents ont été associés, ont également bénéficié de plusieurs réunions d'information. On a essayé de les persuader, mais on ne vit pas chez eux, donc on ne sait pas s'ils mettent en application. Donc le personnel, une fois formé, a redonné la parole aux parents. Mais donc c'est de cette crèche, il faut étendre à toutes les crèches. Donc cette année, d'ici Noël encore, on va organiser des réunions d'information auprès des parents des autres structures. Mais c'est vraiment un engagement fort et qui associe toutes les personnes qui sont touchées par ce phénomène.
Merci beaucoup. Frédéric Gilbert, alors vous avez parlé des réticences tout à l'heure. Quand on est un réseau comme le vôtre, un réseau de crèches, et qu'on en doit emmener, convaincre plus de 150 établissements, donc je ne sais pas combien de personnel, on peut multiplier par 4, enfin, c'est un sacré boulot. Comment on fait ? Parce qu'il y en a forcément des réticences. Comment on fait pour les convaincre sans imposer un vaste sujet ?
Alors déjà, notre travail avec la Belle Vie, c'est justement de ne rien imposer. Chaque crèche s'engage à son rythme. La première des formations, c'est permettre à la direction de la crèche d'être sensibilisée à ce sujet sur le développement durable, à l'auto-diagnostic dont vous parlez, Claire, tout à l'heure. Et puis, en équipe, voir qui a la sensibilité plus que d'autres sur cette thématique-là. Parce que si ça passe que par la direction de crèche, ça ne fonctionne pas beaucoup. Si par contre ça passe par l'ensemble de l'équipe, ça marche beaucoup mieux. Et puis il y a un autre atout qui fait que ça avance souvent et que ça marche bien, c'est que souvent au début de leur engagement, elles vont faire une réunion avec les familles, avec les parents. Je dis les familles au sens large parce que ce n'est pas que les parents, parfois c'est les grands-parents, enfin... connaissez les crèches, parfois c'est l'oncle ou la tante qui débarque. Et en fait, en leur expliquant toute cette démarche, en leur expliquant les bien fondés pour leurs propres enfants, parce que plus jeunes, on va leur donner les bons gestes, ben, plus on a de chances que demain ils deviennent des vrais citoyens du monde, ben, ça fonctionne. Et les parents s'investissent, et c'est vraiment un des éléments, enfin, le fait de ne pas imposer l'engagement, mais bien d'accompagner cet engagement. Toute question doit être posée, soit moi-même, soit à l'association La Belle Vie, pour que vraiment les tabous, les freins soient enlevés.
Quand il y a des réticences, c'est quel type de réticence ?
La plus grande réticence qu'on ait eue sur toutes nos crèches engagées, c'est l'autodiagnostic, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Pas tant sur l'autodiagnostic, comme vous disiez Claire, ça chapeaute vraiment toute la structure dans sa globalité. C'est pas que l'activité auprès de l'enfant. Et quand une direction doit aller trouver les chiffres pour dire au niveau de l'énergie où elle en est, au niveau du bâtiment où elle en est, c'est parfois un peu compliqué. Et c'est là où mon rôle, c'est justement d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas des freins, ça, parce que quand on a maintenant plus de 140 crèches engagées, ça commence à faire, donc il faut qu'elles puissent trouver les réponses pour avancer dans la démarche.
Justement, quand des crèches sont en cours de labellisation, on sait qu'il y a un turnover important dans le personnel de crèche. C'est sans doute un peu compliqué. Vous avez une crèche est en cours, en fin de labellisation, une auxiliaire, une OGE, quelqu'un arrive en cours de route, ça, c'est pas problématique ?
Alors en fait, comme je disais, la première démarche, c'est la formation par la direction de la structure. Quand c'est la direction qui s'en va, ça arrive. À ce moment-là, il y a la possibilité qu'elle fasse elle-même cette formation pour avoir le même niveau que sa propre équipe, du coup, puisque son équipe, elle a continué d'avancer. Et après, il y a toujours ce que nous, on a appelé le référent écolo-crèche, qui va faire les différentes formations pour justement pouvoir nettoyer sans polluer, pour pouvoir proposer des activités aux enfants avec du matériel de récupération, etc. Donc, en fait, comme ce n'est pas porté par une seule personne, quand il y a quand même un turnover dans l'équipe ou au niveau de la direction, vu que l'engagement est de toute l'équipe, en fait, ça fait boule de neige, je dirais, et ça fonctionne à peu près comme ça. Et en plus, elle participe énormément aux réunions, aux journées que met en place Écolo-Crèche, enfin, La Belle Vie. Donc, de ce fait-là, elles échangent entre elles des bonnes pratiques, des idées, et là, elles s'entraînent les unes les autres. Et puis elles s'appellent, dans chaque réseau de coordination, elles vont s'appeler pour se donner des bonnes pratiques aussi. Et c'est cet échange permanent qui fait que ça fonctionne. Ce n'est pas isolé.
Alors il y a un vrai sujet, on en avait parlé, les couches. Parce qu'il y a des vraies réticences quand il y a des possibilités de passer aux couches lavables, on peut le comprendre. Et vous me disiez, Madame Rivet, que des couches qui soient vraiment exemptes de tout perturbateur endocrinien, qui soient biodégradables, c'est très compliqué à trouver en France. Claire, vous confirmez ?
Oui, c'est compliqué.
Parce que les couches, c'est quand même important dans une crèche.
Oui, c'est un sujet. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que quand on ne trouve pas la solution idéale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution quand même. Voilà, et c'est aussi ce que je voulais donner en réponse, par exemple, le nettoyant vapeur, c'est un outil formidable, mais entre l'agnos du sol au plafond 100 fois par jour et le nettoyant vapeur, il y a une myriade d'alternatives. Et c'est ça qu'il faut ouvrir, et il faut ouvrir le champ des possibles. Et il faut se dire que, bon voilà, et dans les couches, c'est pareil. La couche idéale, je ne l'ai pas encore identifiée. En plus, je vous rassure, au moment où on l'identifie, elle se fait racheter par un autre groupe qui change sa composition. Donc surtout, se méfier, ou alors il faut suivre ce que deviennent les filières, les filiales, etc. Mais... Donc non, il n'y a pas de couche idéale à ma connaissance, sauf peut-être celle en tissu bio qu'on aura cousu, fait coudre par un CAT non loin. On a bien contrôlé la filière, je ne sais pas, et on la lave avec quelque chose de... Et je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite et qu'à force de chercher la perfection, on érige des freins. Et nous qui travaillons vraiment dans le changement de pratique, on est là pour faire sauter tous ces... Il faut être pragmatique.
Alors les couches, c'est un bon sujet parce qu'effectivement, nous étions à un stade de renouvellement du marché. Mais je vois que quand même les fabricants ont un peu évolué dans leur pratique, puisque, enfin, on va les citer, parce que Pampers, qui était, qu'il y avait de très mauvais résultats. Dans la dernière étude de 50 millions de consommateurs, sont remontés quasiment dans les premiers. Donc les fabricants sont aussi conscients du problème et on a trouvé un fabricant qui répondait aux exigences du marché, qui effectivement on ne peut pas avoir de parfait, qui répond au maximum d'exigences. Voilà. Et un mot sur les couches lavables, c'est vrai que je crois qu'une fois qu'elles ont été bouillies, elles sont complètement garanties pour les fesses de nos enfants. Le problème, on a essayé de le mettre en œuvre dans un de nos établissements, donc à pareille époque l'année dernière, au mois de septembre, et à Noël, il n'y avait plus que deux parents qui rentraient, qui voulaient bien accepter de faire appel aux couches lavables, parce que ça représente beaucoup trop de contraintes à domicile. Parce que nous, on ne peut pas traiter quand même le lavage. Déjà, c'est très contraignant à organiser dans une crèche, puisqu'il faut des bacs pour chacun des enfants. Enfin, il faut les traiter. Le personnel n'est pas très, favorable à l'utilisation non plus, parce qu'il faut prendre des précautions. Ça, bon. Et déjà, c'était un engagé volontaire, le directeur de la crèche. Comme il n'y avait aucun volontaire, il a été désigné. Et au bout du compte, on a été obligé d'abandonner l'expérience. Donc, je trouve que c'est dommage, parce que c'est effectivement faisable, mais ça ne peut se faire qu'avec le soutien des parents.
C'est vrai que nous, dans nos structures, on a quelques crèches qui, d'elles-mêmes, ont choisi d'expérimenter les couches lavables. Et elles ont mis ça en place avec des parents. Pas tous les enfants de toute la structure ou de toutes les structures. On en est à juste 4 pour l'instant, mais c'est un début. Et le gros souci qu'elles rencontrent, c'est effectivement... comment laver, en fait? Et là, elles sont souvent obligées d'externaliser et c'est un peu compliqué. Là, c'est ça, pour l'instant, qui les bloque un petit peu. Mais bon, elles ne lâchent pas pour l'instant. Donc.
Ce qui est un frein pour la mise en place des couches lavables, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait une laverie, une buanderie qui soit en capacité dans l'établissement. Et il faut qu'il y ait le personnel aussi. Et à partir de ce moment-là, quand on a le bon sèche-linge, la capacité, et ça marche très bien. Moi, je prends l'exemple de la crèche de Carré qui utilise les couches lavables depuis déjà plus de 10 ans. Pour rien au monde, il n'irait en marche arrière et ça fonctionne parfaitement. Les enfants ont des fesses sans souci. Il y a de plus en plus d'enfants, il y a de moins en moins de crèmes pour l'échange qui sont achetées au fur et à mesure des années qui passent. Donc là-bas, c'est une belle réussite.
À la partie évaluation, parce que c'est bien de se donner beaucoup de mal, mais c'est bien aussi de savoir si ça marche, quoi. Alors, Claire Groslot, avant de parler plus dans le détail des types d'évaluation que vous faites, parce que vous en faites très régulièrement, même général, et vous verrez que se mettre au développement durable, ça peut même avoir un impact sur l'absentéisme en baisse du personnel. Donc, on en parlera tout à l'heure. Vous avez fait tout récemment une étude sur l'efficacité des produits de nettoyage. Est-ce que vous pouvez nous en donner les résultats, puisque c'est quand même intéressant de voir que ça marche?
Oui, alors, c'est vrai qu'un des premiers sujets auxquels on s'est trouvé, non pas confronté, mais moi qui m'a fait bondir quand j'ai commencé à fréquenter le monde de la petite enfance en tant que toxicologue de l'environnement, c'est les produits d'entretien. Pour moi, on utilise du napalm pour tuer une mouche. C'est à peu près ce niveau-là. Donc, des produits extrêmement efficaces, mais aussi extrêmement toxique pour réduire un risque microbien qui est mal évalué. Voilà. Donc ça fait des années qu'on a développé des formations, etc., pour accompagner les établissements. Et puis certains professionnels nous ont vus arriver en disant « Vous, les babacool, avec votre savon noir et votre bicarbonate, vous allez faire remonter les taux d'épidémie dans les crèches ». ce qui n'était pas du tout notre intention. Notre objectif, c'est de préserver la santé des enfants au sens large. Donc, on a mené un certain nombre d'études. On accompagne les établissements. Ils font des prélèvements de surface pour s'assurer qu'ils sont toujours dans les normes. Pour la plupart, ils sont aussi contrôlés par des laboratoires externes. Voilà, on accompagne tout ça. Et puis, on a voulu mener une étude de randomisation, donc un peu plus... Alors, je ne vais pas dire scientifique parce que c'est très agaçant, ce comparatif. Soit c'est fait par une académie et c'est scientifique, soit c'est fait par des gens de terrain et ce n'est pas scientifique. Moi, je suis scientifique et je peux vous dire que ce qui est fait par des professionnels de terrain qui savent ce qu'ils font et qui connaissent les limites de leur évaluation, c'est extrêmement scientifique aussi. On ne peut pas demander à des professionnels de terrain de se transformer en chercheurs en microbiologie. Donc on a décidé, nous, de faire une étude tout à fait modeste, mais avec un nombre d'échantillons tel qu'on a pu faire des statistiques. Donc on a fait une grande quantité de prélèvements dans seulement 4 crèches, donc ça peut paraître réduit, mais dans 4 établissements qu'on a suivis pendant 6 mois. Et on a fait faire des prélèvements par le laboratoire d'hygiène départementale, donc un laboratoire tiers, qui est venue prélever avant qu'elle change de protocole, avant le nettoyage, après le nettoyage, et régulièrement, et en ce qu'on appelle en réplica, c'est-à-dire que plusieurs prélèvements à chaque fois sur chaque surface pour pouvoir réduire les incertitudes. Et donc, on a suivi 3 types de souches, enfin, des bactéries qu'on trouve un peu partout, des staphylocoques, des entérobactéries qu'on trouve plutôt dans le système digestif. Et donc, ce que montre l'étude, c'est qu'en fait, on arrive à un taux... Alors, on n'a pas voulu comparer les produits extrêmement toxiques qui étaient utilisés avant et les produits actuels, parce que on n'est pas... l'objectif, ce n'était pas de faire une guerre. On voulait juste montrer qu'avec des protocoles qui utilisent des produits écologiques, les taux de microbes qu'on trouve sur les surfaces sont tout à fait compatibles avec la bonne santé des enfants et leur bon développement. Voilà. Donc, on a trouvé sur ces surfaces très peu d'entérobactéries. Enfin, bon, des taux, l'étude est disponible sur notre site internet, donc je vous laisse regarder et à votre disposition pour répondre aux questions. Mais je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques qui vous feraient piquer du nez. La bonne nouvelle, c'est que les bactéries, les micro-organismes qui sont pathogènes ou à risque pour les enfants sont contrôlés. Et l'autre très bonne nouvelle, et sur laquelle nous militons aussi, c'est que les bactéries générales, qu'on appelle ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on trouve partout, existent toujours. Et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on voudrait transformer les établissements d'accueil du jeune enfant, où on a voulu à un moment les transformer en lieu de non-vie microbienne. Et c'est une énorme erreur, on le sait maintenant, c'est un discours que vous avez dû entendre, il faut que les enfants soient en contact avec des micro-organismes, certains pathogènes, non létales, pour qu'ils puissent construire une certaine immunité, mais aussi tous ces micro-organismes qu'on connaît bien maintenant, parce qu'ils constituent même notre deuxième cerveau, c'est-à-dire qu'ils font tout le biotope qui est à l'intérieur de notre système digestif. Donc la très bonne nouvelle, c'est qu'on maintient, on contrôle les micro-organismes pathogènes et on laisse vivre les micro-organismes dont on a absolument besoin pour cette vie sur Terre. Donc voilà. Et alors les protocoles, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est laisser les crèches élaborer leurs protocoles. On n'a pas voulu donner de protocoles à appliquer strictement parce que je suis bien placée pour savoir que la vie en laboratoire et protocolaire n'est pas du tout celle du terrain. Donc on a laissé les professionnels choisir leur protocole. Alors qui avec du savon noir, qui avec un produit écolabellisé, qui avec du bicarbonate, qui avec telle huile essentielle. Alors attention sur les huiles essentielles, uniquement de la lavande fine utilisée en surface, pas en présence des enfants, etc. Jamais aucune autre huile essentielle. En tout cas, c'est ce qu'on recommande aux professionnels, et qui n'en mettaient pas non plus parce que la professionnelle était allergique à la lavande fine, et donc il n'y avait que du vinaigre et du bicarbonate dans son produit dit désinfectant, mais ça a marché. Voilà. Donc on est très content de cette étude qui est très humble. On aimerait pouvoir en mener une beaucoup plus large, avec beaucoup plus d'échantillonnage, mais bon, déjà les premiers résultats sont très très encourageants.
Les produits de nettoyage, finalement, c'est la chose la plus importante, c'est la step one. Quand on veut essayer d'avoir une crèche saine pour les enfants. C'est vraiment essentiel.
Mais c'est-à-dire qu'on est parti de très très loin. C'est-à-dire on utilise encore dans certaines crèches des produits tellement nocifs et en fait on calcule le risque le produit est intrinsèquement un danger, mais on l'utilise en quantité phénoménale toute la journée dans toute la crèche. Et là, on arrive à des taux de produits qui sont extrêmement dangereux.
Sylvie, c'est le constat que vous faites ?
Ça me refait penser ce que me disait une professionnelle il y a quelques mois. Ses collègues ne voulaient pas que ça sente dans la salle de change. Donc, elle avait ordre de pulvériser un produit qui la faisait tousser. Mais c'est pas grave, parce que ça sentait bon dans la crèche. Et moi, je suis arrivée tout simplement en lui disant, bah, écoutez, mettez du bicarbonate au fond de la poubelle et les problèmes seront résolus. Voilà, ça permet de faire de tellement belles choses prenant soin. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, prendre soin de l'humain en utilisant des choses simples. Et c'est ce que permet le développement durable. C'est quelque chose qui est important.
Alors, pour évaluer l'impact, quand même, Écolocrèche, vous, tous les ans à peu près, je crois, vous donnez une étude qui montre ce que ça apporte de s'engager dans le label. Nous en dire deux mots ?
Oui, alors le label, c'est 350 points qu'on mesure tous les 3 ans. Et en plus de ça, chaque année, parce que 3 ans, c'est un peu long pour se dire, imaginer où on en est. Donc chaque année, on a défini une petite dizaine d'indicateurs qu'on suit dans toutes les crèches du réseau. Et donc les crèches sont censées répondre à ce petit questionnaire en ligne. Il s'agit de la consommation d'énergie, de la consommation d'eau, de la proportion d'ingrédients issus de l'agriculture biologique dans le repas, du taux d'activité proposé aux enfants à base de matériaux naturels ou en lien avec la nature, de l'absentéisme des enfants, de l'absentéisme des professionnels, et j'en oublie peut-être un, mais... Donc quelques indicateurs comme ça, et on observe chaque année, on se pince quand on voit les résultats. Les résultats majeurs, c'est quoi ? Les résultats majeurs, c'est que des crèches font 70% d'économie d'énergie sans changer le matériel, enfin, l'organisation électrique, ni à peu près pareil en économie d'eau. Et puis des baisses d'absentéisme aussi qui sont assez... Alors il y a des crèches qui vont jusqu'à 100% de bio dans les repas, mais elles sont assez peu nombreuses. Et une baisse de l'absentéisme des professionnels qui peut aussi chuter de façon impressionnante. Enfin, tu pourras témoigner aussi. Hein. Et aussi l'absentéisme des enfants avec la disparition de certaines maladies. Donc pour aller plus loin dans ce dernier critère qui est très fragile... On veut mener une étude épidémiologique, pour le coup avec une cohorte assez élargie, pour montrer l'impact de ces démarches sur la santé des enfants. Donc on cherche des financements, si vous avez des pistes, allez-y. Voilà.
Non, juste pour aller dans le sens de ce que dit Claire, moi en tant que directrice développement durable et direction des crèches, ce qu'elle voit de suite, c'est le fait que le personnel est beaucoup moins absent quand elles appliquent vraiment... des produits non toxiques pour entretenir les structures, ou quand elles fabriquent elles-mêmes leurs produits, ça, elles ne le font que si elles ont été formées pour, hein, sinon elles n'ont pas l'accord de le faire. Et puis elles me disent aussi, parce que ça, ce sont des choses qu'elles voient au quotidien, elles me disent, ben, les enfants ont beaucoup moins de bronchiolite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a beaucoup moins. Voilà, donc ça c'est ce qu'elles me font remonter, parce que c'est dans leur quotidien et dans vraiment chaque jour à la crèche. Quoi.
Est-ce que vous avez observé dans les crèches où vous avez mis en place toutes ces actions une amélioration sur des points particuliers ?
Une amélioration sur le plan général. Alors d'abord, comme je vous ai dit, c'est pas encore généralisé, on fait par... En évoluant petit à petit, mais sur la crèche donc, qui a été le siège de la première expérimentation, on a une bonne ambiance de travail, on n'a pas constaté d'évolution vraiment sur la santé des enfants. Les enfants en tous les cas sont pas plus malades, donc c'est déjà très bien. Le personnel est... Je pense que dans l'ambiance de la crèche, il y a plutôt une amélioration parce que le personnel s'est retrouvé ensemble et allant dans une même direction et pouvant porter une parole commune. Donc ça a généré une cohésion de l'équipe de la crèche. Et c'est en tous les cas, en termes d'ambiance de travail, à noter et nous en sommes satisfaits. Sur le reste, moi, j'aimerais pouvoir constater d'aussi bons résultats que ceux que vous annoncez. Je pense que ça va venir. Mais pour l'instant, sans doute, nous ne sommes pas tout à fait à la généralisation et au constat que vous faites. Mais j'ai bon espoir, effectivement.
Après, il est vrai, et je vous rejoins tout à fait, dans les structures, le fait que la crèche s'engage. Quand elles ont fait l'autodiagnostic, après, elles doivent réfléchir à quelles actions elles vont mener. Mais ce n'est pas une personne, c'est toute une équipe. Donc, c'est un projet qui est porté par l'ensemble. Et c'est très fédérateur et ça crée une dynamique où parfois, ça s'est un peu essoufflé dans l'équipe, parce qu'on connaît les équipes, il y a toujours des hauts et des bas. Et là, ça redynamise autour d'une thématique commune. Et puis dans les crèches, chez Crèche Attitude, on a quand même beaucoup de personnes jeunes et qui, pour elles, le développement durable, enfin toutes ces actions-là sont normales, il faut le faire. Donc ça les dynamise deux fois plus. Donc c'est vrai que nous aussi, on le constate.
Sylvie, quand vous allez dans les... Vous suivez les crèches, j'imagine, vous retournez dans les...
Oui.
Crèches.
Oui.
Est-ce que vous constatez aussi des changements au niveau de... quel retour vous avez, en fait, quand vous allez voir comment ont été appliqués ce que vous avez donné en formation?
Je vais prendre l'exemple... Alors, ça part d'une crèche, mais on arrive à la collectivité. Il y a quelques années, une agent d'entretien d'une micro-crèche municipale a participé à une journée sur la formation nettoyage écologique. Et je l'ai revue en début d'année, puisqu'elle travaille aussi au niveau de la restauration scolaire. Et bien, elle a envoyé toute la commune dans le nettoyage écologique. Parce qu'elle était motivée, parce qu'elle a vu qu'au niveau de la collectivité petite enfance, ça fonctionnait bien. La lessive, le nettoyant en multisurface. Et elle a surpris le DGS, en fait, par sa capacité à rebondir. Et j'ai appris cette semaine qu'elle était titularisée. Donc, une belle histoire en partant du nettoyage écologique et du développement durable. Voilà.
On a 10 minutes, si vous voulez, pour des questions. Je ne sais pas qui donne le micro. Personne, c'est moi. Voilà. On fait tout.
Bonjour, je m'appelle Laurence Barbier. J'ai une agence, j'ai une expertise couleur et il m'intéressait de savoir... mon travail est essentiellement travaillé sur la couleur et l'influence de la couleur sur la personne et les lieux de vie. Donc on est bien au-delà de c'est joli et ça n'est pas joli, mais bien plus loin. Et moi, il m'intéressait de savoir dans les travaux que vous aviez engagés au niveau des crèches, parce que je suis très fascinée par tout le travail que vous avez déjà engagé au niveau écologique. Qu'est-ce que vous avez mis sur les murs? Est-ce que vous avez pris conscience que non seulement le coloris que vous pouviez mettre sur les murs, mais la peinture que vous mettez sur les murs? J'imagine que vous avez utilisé des produits tout à fait adaptés, que vous vous étiez renseigné sur la partie écologique, en matière de décoration et après d'influence de la couleur sur votre cible qui est l'enfant dans votre cas. Voilà. Merci.
Je vous réponds, Claire. Allez-y, madame
Ridé. Juste un mot, nous sommes très sensibles à la couleur et dans les crèches, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, on met beaucoup de couleurs et nous avons été, nous sommes très vigilants à la composition des peintures, à la composition des cols du sol, à la composition des matériaux souples qu'on met par terre, mais nous traitons nos crèches absolument en couleur.
En fait, dans nos structures, alors il est vrai que les anciennes structures ont les anciennes couleurs qu'on pouvait trouver à l'époque, hein, le rouge écarlate, le vert criard, etc. Aujourd'hui, toute structure qu'on ouvre ou qu'on reprend, si on a la possibilité de nous-mêmes faire les travaux, on va être sur ce qu'on appelle le nouveau concept. Il ne commence pas à être nouveau, mais on l'appelle toujours comme ça. Et les matières utilisées sont des matières nobles, donc essentiellement du bois. Alors, parfois, il y a des ratés sur le bois, parce que vous savez que tous les bois ne sont pas si nobles que ça, mais on avance sur le sujet. Et en termes de couleurs, là, on est plus sur des couleurs douces, du beige, du blanc. Enfin, c'est plus doux que ce qu'on pouvait avoir avant. Mais il est vrai qu'on a encore certaines crèches qui sont dans les anciennes couleurs. Et au niveau des peintures, alors là, il y a tout un travail qui a été fait avec la Belleville, donc je vais repasser le micro à Claire qui saura mieux vous l'expliquer.
Oui, alors la nature des peintures fait partie du diagnostic qui est fait dans la démarche écolo-crèche, donc c'est, j'imagine, complètement en cohérence avec ce que vous faites aussi. Donc sur la nature des peintures, je peux vous répondre. En revanche, sur l'influence de la couleur sur l'humeur, les sensations, etc., beaucoup moins. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Quoique, il y a quand même, on s'aperçoit que dans les peintures naturelles, il y a quand même des pigments qui sont assez compliqués à trouver et donc des couleurs qui sont compliquées à mettre en œuvre. Mais oui, oui, ça fait partie de ce qui est analysé et de ce qui est très influent en plus sur la qualité de l'air, entre autres. Mais sur l'influence sur la santé, enfin sur l'humeur des enfants ou du personnel, moi je. Joker.
D'autres questions?
Donc, bonjour, bravo mesdames pour toutes ces réalisations. Donc, je suis Anne-Marie Faure, directrice commerciale d'ABBA France. Et je voulais vous demander quand est-ce que vous allez développer l'extension de votre label pour faire la pédagogie maintenant aux familles, parce que vous êtes très très attentive aux enfants sur un tiers des 3-8, et il reste à peu près deux tiers. Et là, les enfants sucent les talons des chaussures des mamans, marchent par terre, les maisons sont polluées, les vêtements made in China brûlent, sont toxiques, apportent de la toxicité dans vos établissements. Vous luttez pour l'air sain, vous luttez pour des environnements extraordinaires, vous déployez des énergies phénoménales, et l'enfant rentre chez lui et ramène même beaucoup de pollution à l'intérieur de vos établissements. Donc peut-être faire un label vie et famille.
Alors figurez-vous, si on a changé de nom, c'est parce qu'on a envie de sortir des crèches, non pas qu'on s'y sente pas bien, mais parce qu'on a des ambitions qui vont au-delà. Et puis c'est vrai que l'enfant ne passe pas toute sa vie dans la crèche, et puis c'est vrai que l'enfant grandit, donc on nous pousse, et les écoles, et les... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a amorcé une démarche en direction de l'accueil individuel, donc les assistants maternels. On rentre dans une maison, là, déjà. On est chez un particulier qui accueille des enfants, donc on a beaucoup appris de ça. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a démarré une démarche en direction des centres de loisirs aussi, qui accueillent du coup des enfants plus tard que l'âge de la crèche, parce que l'école, il faut pacter avec l'éducation nationale, et pour l'instant, on n'est pas assez solide. Non pas qu'on veuille pas, mais c'est des enjeux plus... Et en fait, les familles, le grand public, la grande difficulté, c'est une cible éclatée. L'opportunité qu'on a eue avec les crèches, c'est que ce sont des établissements qui ont pignon sur rue, une institution, et c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec eux et d'engager une démarche, de suivre. Donc c'est pas qu'on n'a pas eu envie, c'est que c'était plus compliqué, mais maintenant on s'en sent capable. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'y atteler. J'ai pas le calendrier, je sais pas vous dire quand. Et je vous dis aussi qu'avec les établissements qui sont actuellement engagés, et depuis le début, on a toujours soutenu, accompagné et formé les professionnels à faire transpirer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, à propos du contact ou de la communication avec les familles. Et que pour moi, l'accompagnement à la parentalité passe aussi sur les questions de responsabilité environnementale. Et je crois que quand les professionnels sont formés à ces questions-là, ils sont assez fiers de pouvoir être une référence pour les familles sur ces sujets qui sont très anxiogènes, sur lesquels il est très difficile d'avoir une information fiable. On est très déstabilisé sans cesse par le flux d'informations qui nous arrivent. Donc déjà, il faut savoir que les professionnels de la petite enfance qui ont cette vocation sont de très bons prescripteurs et de très bons accompagnants sur ces questions. Et donc oui, on va, alors, je ne sais pas si on va faire un label, mais en tout cas, il est prévu d'ici 2 ans de faire une démarche qui sera accessible en ligne pour les familles. Donc voilà.
Une question ?
Oui, bonjour, Aude Puissant, je suis architecte d'intérieur, anciennement directrice de crèche, et donc je suis sollicitée par des directeurs de crèche pour réhabiliter des locaux en micro-crèche. Et je me demandais dans quelle mesure votre label prenait en compte l'utilisation justement de matériaux, on va dire, sains ou écologiques pour avoir ce label.
Alors, dans le label, il y a 8 items environnementaux, dont le bâtiment, bâtiment, eau, énergie. Enfin, je vous allez regarder sur le site et le tout est disponible en ligne. Hein. Et 7 items sociaux. Donc, le bâtiment est un des grands items qui sont étudiés. Donc, on prend en compte, je ne sais pas, la nature de la structure, les murs, son orientation, la nature des revêtements. Le type d'aération, de fenêtres, mais aussi la fréquence d'ouverture de ces mêmes ouvertures, etc., etc. Donc il y a énormément de questions qui sont liées au bâtiment. Donc c'est un sujet assez prépondérant, même si c'est pas le sujet qui bouge le plus vite, parce que on change pas son bâtiment aussi facilement. Mais on a vu quand même des établissements progresser sur ces questions et passer d'un linoléum qui relargue pas mal de substances à un revêtement plus éco-responsable, changer les peintures, changer le mobilier. Alors, au fil des besoins, hein, on n'incite pas les crèches à jeter tout leur mobilier et à en remettre un nouveau, mais petit à petit, de le faire voilà, en bonne conscience. Donc oui, c'est une grosse part du diagnostic.
D'accord, merci. D'autres questions ?
Une mesure toute simple pour la qualité de l'air, c'est ouvrir les fenêtres. Et on a appris à nos personnels de crèche à ouvrir les fenêtres systématiquement. Dès qu'un groupe d'enfants part de la pièce, on aère. C'est tout simple, ça ne coûte rien et ça améliore très, très sensiblement la qualité de l'air.
Il y a une question.
Je suis le docteur Langlais, je suis médecin en crèche. J'ai juste une question concernant l'utilisation de tous ces produits naturels qui, comme ça, moi, me donnent bien envie dans les crèches. Mais est-ce que, par rapport aux normes, est-ce qu'on a le droit de changer, de modifier complètement ? Est-ce qu'il y a, je dirais, dans la ville, d'habitude, il faut passer par, voilà, il faut choisir les produits qui sont disponibles. Est-ce qu'il est possible dans les crèches d'utiliser du savon noir, d'utiliser comme ça ? C'est facile. D'accord. Parfait.
Il n'y a pas de normes sur ces sujets-là. Alors, à chaque fois, je renvoie. La Direction générale de la cohésion sociale a édité un petit guide en direction des PMI qui redonne. Mais tu vas pouvoir donner exactement. Sur le site de la direction, le ministère de la Famille, il est disponible. Donc, il y a tout des recommandations qui ne donne pas de recommandations uniques et donc il n'y a pas de normes sur ces questions. Donc on peut utiliser des tas de choses.
Voilà. Après, tout dépend aussi de votre relation avec la PMI. Et c'était un peu l'objet de la table ronde de ce matin sur les normes dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Les choses vont bouger, les choses vont sûrement s'assouplir et se simplifier. Mais a priori, sur des produits comme ça, la PMI, elle est plutôt pour... le moins agressif possible. Enfin, les médecins de PMI, je pense notamment aux produits de soins, où c'est vraiment, le plus souvent, la recommandation, c'est l'eau, éventuellement le liniment. Mais voilà, pour toutes ces questions, la PMI est plutôt conciliante. Voilà.
Dans nos crèches, il y a beaucoup de PMI, puisque c'est tout le territoire français, donc forcément, on a différents regards. Ce qui est important, par contre, c'est de toujours... à les contrôler. Comme l'a dit très justement Claire, il y a des contrôles par des laboratoires, mais il y a des contrôles aussi internes pour être sûr qu'on est bon. Après, moins le produit est toxique, mieux c'est en fait pour les enfants, pour tout le monde. Donc, en général, ça passe. L'inquiétude des PMI, c'est surtout savoir si on est vraiment dans des normes où c'est vraiment propre en fait. C'est ça qu'il faut. Et Voilà, et oui, c'est pour ça qu'on fait vraiment un contrôle, que La Belle Vie accompagne les structures sur ce sujet-là, parce qu'au moindre doute, ça peut arriver que, quand elles fabriquent leur propre produit d'entretien, quel que soit ce produit, il y ait un mauvais dosage. À ce moment-là, il faut... et on l'a contrôlé, du coup, on a pu vérifier que là, il n'a pas été efficace. Ben, c'est... On peut le corriger. Donc, il faut remettre comme il faut, remettre les bonnes doses. Et là, c'est vrai que l'association nous aide. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent utiliser des produits fabriqués maison, comme on dit, que si elles ont fait la formation. Parce que sinon, il y a un vrai risque.
Donc, alors, voilà. s'il y a d'autres questions, non ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions...
Tu voulais dire quelque chose ?
Non. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer... voilà, on va faire un dernier tour de piste. En deux mots, on avait commencé développement durable et petite enfance. Et là, en deux mots, un conseil pour un établissement qui voudrait essayer de commencer à faire un petit quelque chose dans ce domaine.
Vaste question. Un conseil. Si un conseil pour démarrer, pour se donner, lisez les étiquettes, quels que soient les produits, cuisine, ménage, lisez les étiquettes, cosmétiques, lisez les étiquettes, et ça vous donnera le tremplin.
Je modérerai votre propos, parce que même en lisant les étiquettes, quelquefois c'est tellement hermétique. Vous êtes un peu spécialiste, et pour le commun des mortels, c'est pas si évident. Déjà, si un établissement a envie d'aller vers le développement durable, ça veut dire qu'il a pris conscience. Et moi, est-ce que je dirais, prenez conscience de l'importance du développement durable, et c'est le premier pas.
Merci, Claire.
Alors, des astuces, il y en a plein. Ça va de, effectivement, ouvrir les fenêtres, lire les étiquettes, commencer avec des pommes issues de l'agriculture biologique, que sais-je. Mais surtout, faites-vous confiance. Quand j'ai raconté à ma grand-mère ce que je faisais, elle m'a dit « Ah, mais c'est devenu un métier ». C'est-à-dire que oui, toutes ces petites choses qu'on fait, qu'on incite à faire par les professionnels de la petite enfance, sont des choses qu'on connaissait. C'est une question de bon sens. Donc, refaites-vous confiance. Et j'avais juste, et je profite, ça c'est une phrase militante, notre ministre de l'écologie a démissionné il y a quelques jours. Il était très touché, il était très ému, il se sentait seul. Moi aussi, on se sent beaucoup seul quand on est dans ce genre de dynamique. Mais le message que je retiens de cette démission, c'est vous, citoyens, prenez le pouvoir. Donc si vous voulez y aller, allez-y, c'est le moment.
Chez Crèche Attitude, justement, la mission que l'on a, c'est de préparer chaque enfant à devenir un citoyen du monde. Donc, on essaie de lui donner les clés. Et je pense que si nos crèches s'engagent et que ça fonctionne, c'est parce qu'avant l'engagement, justement, elles se posent la question. Qu'est-ce que c'est pour nous, ce développement durable ? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait déjà ? Parce que parfois, elles font déjà plein d'actions sans en avoir conscience. Donc, en posant les choses et après en s'engageant plus loin, elles arrivent. Donc, moi, je conseillerais déjà de se poser autour d'une table et de dire finalement qu'est-ce qu'on fait qui va déjà dans le bon sens pour le développement durable.